Vous écoutez Accès libre.
Deuxième partie de l'émission, on est à la demi avec un sujet qui, il y en a, vraiment chacun a ses variantes. Chacun a sa position là-dessus, mais on voulait demander à quelqu'un qui va parler de comment approcher la recherche d'emploi, comment essayer de... d'être soi-même sans nécessairement cacher ou mentir quoi que ce soit. C'est Michaël Dulin qui lui est coordonnateur à l'étape. Il sera, ben je le disais, co-animateur d'une séance d'information à ce sujet. Ça se passe plus tard cette semaine. Pour ceux qui nous écoutent en direct, là, ça se passe quoi, jeudi, Michaël?
Oui, ça se passe jeudi en après-midi dans les bureaux de l'étape.
L'étape qui, depuis longtemps, travaille à l'employabilité des personnes qui vivent avec des limitations. Vous dites qu'il faut choisir le bon moment, Michaël, pour divulguer sa limitation. C'est ce que j'ai lu dans un des articles qui traitait de l'atelier. Comment savoir qu'est-ce qu'est le bon moment et surtout, comment se respecter soi-même? Parce que le bon moment officiel est peut-être pas nécessairement le moment où moi je le sens.
Non, c'est ça. Puis, c'est vraiment un sujet très personnel. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise d'en parler. Donc, on essaye de démystifier, en fait, justement, la notion du handicap et puis de le rentrer aussi dans le contexte de l'entrevue. Il faut aussi rappeler, on essaye de mentionner ça dans les ateliers puis dans les séances d'information qu'on fait, que l'entrevue, l'objectif de l'employeur puis l'objectif du candidat, c'est de... pour l'employeur, c'est de chercher puis de recruter la personne qui convient le mieux par rapport à ses exigences puis par rapport à ses attentes par rapport à un poste qui est bien défini, en tout cas on l'espère. Et pour le candidat, ben, c'est d'obtenir en fait de l'emploi, donc de montrer ses compétences, de montrer qu'est-ce qu'il a de mieux en fait par rapport à l'affichage de poste. Donc on essaie de recadrer un peu ces informations-là. Oui. Et puis dans tout ce contexte de recrutement, donc par rapport à tout le processus de dotation, on essaie de se questionner à savoir, bon, est-ce que, en tant que candidat en situation de handicap, je dois mentionner ma limitation, mes difficultés? Si oui, à quel moment? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut me porter préjudice par rapport à ma candidature? Donc, c'est un peu tout ça qu'on essaye de...
Mais ce serait quand le bon moment?
C'est difficile à dire dans le sens où c'est toujours... une situation individuelle, donc nous, ce qu'on essaie de dire, puis un peu le message, puis de manière générale, c'est qu'on essaie de retarder le plus tard possible dans le processus de dotation la question de la divulgation, puis ça a appuyé sur des faits dans le sens...
Juste avant la fin de l'approbation, à la fin du 3 mois, là, qu'on est déjà embauché, là, non, j'exagère évidemment, là, mais en même temps, c'est parce que je trouve que le risque est grand de... faut que tu aies un tannant de bon CV... et une bonne lettre pour que la personne, si elle ne sait pas que tu as une limitation et qu'elle te voit arriver avec ton handicap visible, ait autre chose dans sa tête que « Oh boy, comment je fais pour m'en débarrasser pour passer à l'autre candidat? » Il faut vraiment que la personne dise « Ah, OK, malgré ce que je vois devant moi, cette personne-là, je dois trouver une façon de mettre à profit les compétences que j'ai vues sur le CV qui m'a motivé à l'inviter ici en entrevue. » C'est pour ça que je me dis, plus on le met tard, plus on est confronté à cette perception risquée-là.
Vous avez mentionné un point qui est quand même important par rapport à est-ce que c'est visible ou est-ce que c'est non visible.
Oui.
On s'entend qu'une personne, par exemple, qui pourrait avoir un trouble de santé mentale ou des problèmes autres, ou comme par exemple une personne qui pourrait avoir un trouble du spectre de l'autisme, c'est pas écrit sur sa face que la personne peut avoir certaines difficultés ou qu'il pourrait être confronté à certains obstacles dans l'exercice de son travail. Donc là, la question est différente par rapport à un handicap qui est visible. Ouais. C'est sûr que par rapport à tout ce qui est envoi de CV et puis convocation à l'entrevue, ça va être plus facile. Mais par rapport à l'entrevue, c'est là où il va falloir essayer de trouver des stratégies pour amener la question du handicap, peut-être rassurer l'employeur parce que on a tous des préjugés, puis l'employeur pourrait se dire « Ah, effectivement, c'est peut-être des problèmes à en devenir. » Donc, c'est de comment ramener aussi sur rassurer l'employeur, mais en même temps, faire valoir ses compétences, puis rassurer sur peut-être les moyens, les accommodements qu'on peut utiliser, en fait.
En vous écoutant, Michaël, je me dis, quelqu'un qui a un handicap invisible peut attendre à l'entrevue, et même en entrant dans la salle d'entrevue, il n'est pas confronté à une perception négative parce que la personne ne voit pas son handicap.
Exact.
Par contre, elle a vraiment intérêt à le dire dans l'entrevue. Je trouve que ça démontre une aisance avec sa situation et tout. La personne qui, comme moi, a un handicap visible, moi, j'aurais tendance à penser, si mon CV a fait le boulot et que l'on m'appelle pour prendre rendez-vous, c'est là où je dirais peut-être... combien de coins de rue je dois traverser avant de me rendre chez vous à partir de l'arrêt d'autobus parce qu'étant aveugle, j'ai besoin vraiment de... Comme ça, on vient de désamorcer le « ouh » de la personne lorsqu'elle me voit arriver et en même temps, elle peut pas me dire « on t'appelle pas à l'entrevue, le rendez-vous est déjà pris. »
Ouais, puis si l'employeur vous disait non, finalement, là, il y aurait un motif de plainte.
Ouais,
là, il y aurait clairement une discrimination.
Mais
c'est un bon point d'amener la question des accommodements par rapport à une convocation à l'entrevue. Par exemple, une personne qui serait à mobilité réduite pourrait essayer de demander, bon, elle pourrait aussi essayer de voir si le bâtiment est accessible, mais mettons, si l'information ne l'est pas, ça pourrait être une possibilité de demander, bon, est-ce que les locaux sont accessibles? Est-ce que je vais avoir des difficultés pour me rendre ou pas? Mais sans forcément mentionner sa limitation ou quoi que ce soit, mais juste de l'amener par rapport aux accommodements nécessaires et puis aux besoins, en fait, de la personne.
Ouais. Revenons au handicap invisible. Je suis juste curieux. Bon, on a parlé de déclaration, disons, de ma part, mais est-ce que légalement, si j'ai un handicap invisible, je dois déclarer ma limitation à l'employeur potentiel?
Il n'y a pas d'obligation légale, non.
Okay.
En fait, l'employeur, lui, quand il fait sa sélection, dans les meilleures pratiques, là, on s'entend qu'il doit faire sa sélection en se basant sur les exigences du poste et puis les attentes qu'il a. Donc, si la personne est en mesure de réaliser les tâches, puis qu'elle ait toutes les compétences nécessaires, il n'y a aucune obligation pour... qui fait qu'il doit en fait donner des informations sur son diagnostic, les rendez-vous médicaux qu'il doit avoir ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment de l'ordre du personnel.
Quand vous dites, Michael, dire le plus tard possible, est-ce que c'est le plus tard avant d'être embauché ou si on est capable même de traverser cette étape-là, ça peut être dans nos premières journées d'adaptation? Quand vous dites le plus tard possible, jusqu'où peut-on se rendre?
Ben, ça dépend, en fait, encore une fois, ça dépend de l'aisance de la personne. Il y a des personnes qui pourraient ne jamais le dire parce qu'il n'y a aucune répercussion.
Ben là, c'est parce qu'ils n'ont pas de problème.
Ben, c'est ça, c'est dépendamment de, mettons, une personne qui a des rendez-vous médicaux à une telle fréquence, en fait, elle peut avoir des répercussions. Quelqu'un qui a une fibromyalgie, qui peut avoir de la fatigue, mais qui a trouvé des moyens pour compenser, puis qui est en mesure de réaliser ses tâches de travail parce que c'est un emploi à temps partiel ou autre. Il y a des situations où la personne peut ne pas le dire, mais si, mettons, il y a des répercussions en lien avec son travail, ça peut être au moment de l'embauche, en fait, où la personne peut demander un peu certaines mesures d'accommodement ou de savoir un peu comment la personne pourrait s'arranger, en fait, en lien avec l'accomplissement puis la réalisation des tâches de travail. Puis, ça peut être là aussi où la personne peut mentionner les besoins d'accommodement dont elle va avoir besoin, puis des mesures aussi, parce que... Avec Emploi Québec, il y a certaines mesures qui existent en fait pour compenser certaines difficultés, que ce soit du mobilier de bureau adapté ou des heures d'interprétariat pour des personnes sourdes ou un soutien au salaire pour d'autres personnes.
Justement, parlons-en de ces programmes d'embauche-là. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas parler, disons, parlons du contrat d'intégration au travail parce qu'ils disent... c'est comme de dévaloriser un peu mon travail. Je ne veux pas être considéré comme du cheap labor.
Ouais.
D'autres qui le voient différemment, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que l'employeur, pour lui, c'est intéressant de savoir qu'il y a des programmes d'embauche au soutien à l'embauche ou au contraire, justement, ça pourrait mettre la puce à l'oreille que hein, c'est vrai qu'il va être moins rapide, c'est vrai que...
Mais en fait, ça dépend. Chacun, c'est vraiment toujours très personnel.
Okay.
Les personnes peuvent considérer la mesure comme discriminatoire ou percevoir ça comme encourager en fait les employeurs à aller chercher des subventions sans forcément reconnaître les compétences. Moi, je le vois dans le cadre de mon travail, on est confronté, on a souvent des situations où les personnes en ont besoin. C'est vraiment une mesure qui, sans celle-ci, le candidat ne pourrait pas être embauché ou en tout cas, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc moi, je le vois vraiment comme une mesure qui compense les difficultés d'une personne en lien avec son handicap à pouvoir s'intégrer sur le marché du travail. Puis, je pense que c'est un peu ça la mesure, c'est de favoriser l'égalité d'accès et l'égalité d'accès au marché du travail à toutes les personnes, peu importe leurs difficultés. Par exemple, je pense aux personnes sourdes qui ont besoin des services d'interprète pour communiquer dans leur langue auprès de, tu sais, avec leur employeur ou pour pouvoir bénéficier de formation. Je pense que le CIT, en l'occurrence, c'est vraiment une mesure compensatoire. Par rapport au soutien au salaire, si tu as des personnes qui, en raison de leurs difficultés, éprouvent vraiment de la difficulté à atteindre les exigences du poste parce que y a des niveaux de productivité à atteindre. Mais là encore, ça permet de faciliter à la personne d'atteindre ses objectifs et puis en même temps de ne pas culpabiliser toujours en se disant « là, je ne suis pas bon, je n'atteins pas mes objectifs ». Mes employeurs sont pas contents, mes collègues trouvent que je travaille pas assez vite. Fait que ça permet un peu d'enlever un poids par rapport à des exigences de productivité qui sont, dans tous les cas, inatteignables pour certaines personnes.
S'il y a des gens qui ont envie de réfléchir davantage sur la question, est-ce qu'il y a toujours de la place? Qui peut s'inscrire à cet atelier de jeudi?
Oui, donc il reste encore quelques places pour s'inscrire. En fait, faut contacter. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook de l'État. Et de Vie Autonome.
C'est vrai que Vie Autonome est partenaire avec cette activité-là.
Oui, c'est un partenariat. Donc ils peuvent encore s'inscrire en contactant par courriel la personne qui est en charge des inscriptions. Puis si on s'entend que là, on va donner de l'information générale, puis on va essayer de répondre aux questions le plus possible. Mais il y a toujours, c'est toujours des cas particuliers, individuels. Ouais. Si les personnes veulent aller plus loin un peu dans leur réflexion, je les invite à communiquer avec l'État ou en tout cas à avoir un conseiller en emploi qui pourrait les aider dans cette réflexion qui peut quand même être importante dans le processus.
Merci d'être passé par chez nous.
Merci.
Michael Dulin, donc, qui sera co-animateur de cet atelier jeudi le 18 avril. C'est à quelle heure?
Ça commence à 13h. Puis juste pour préciser, je le co-anime avec Mme Sylvie Laforge, qui est spécialiste en dotation, qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans une entreprise d'État sur le programme d'accès à l'égalité en emploi, puis les processus en lien avec la gestion de la diversité.
C'est ça. Précision faite.
Ouais.